93.1 FM ou bien cause-commune.fm. Et c'est le moment. Accord. Bonjour et bienvenue, bonjour chers auditeurices, c'est un accord au corps un peu particulier parce que nous sommes pour une fois en direct et nous accueillons une partie de l'équipe d'un spectacle qui se produit actuellement à Paris à la Cité Internationale qui s'appelle Indestructible, qui a lieu ce soir et jusqu'à samedi 8 février. Et j'accueille, et j'ai le grand plaisir d'accueillir Julie Moulier.
Bonjour.
Bonjour Julie. Julie, c'est pas la première fois que tu es chez nous à Cause Commune.
Oui.
Merci d'être là, c'est super. J'accueille Manon Worms.
Bonjour.
Bonjour Manon, c'est bien prononcé?
Worms. Plutôt Worms.
Worms.
Ok. Merci pour l'accueil.
De rien, merci d'être là, c'est génial. Et Adil Laboudi.
C'est ça.
Je te vois mal, mais je t'entends et ça, c'est génial. Comment on fait, Manon, Julie, Adil, pour raconter un petit peu ce que c'est que Indestructible, si ce n'est que ça parle du corps d'une voiture?
C'est une voiture qui parle.
C'est même une voiture qui parle, mais le problème, c'est qu'elle est un petit peu en morceaux, non?
C'est ça. C'est des bouts de cette voiture qui vont s'assembler, raconter une histoire et raconter d'où vient ce modèle assez mythique, la Peugeot 504, qui a été sortie en 1968. Et on remonte le temps pour essayer d'explorer un peu tout ce qui s'est passé derrière cette voiture et sa fabrication, les milliers d'ouvriers qui ont travaillé, les usines et les luttes sociales surtout qui ont eu lieu dans ces usines automobiles de la fin des années 60, et principalement avec deux personnages principaux et un cœur de différents personnages autour d'eux. Une jeune ouvrière qui arrive de Paris, qui quitte ses études pour venir en usine et monter une grève, et un travailleur immigré du Mali, Bakary. Ils vont se rencontrer dans ces usines et il va se passer plein de choses.
On est dans une immersion d'images, mais aussi surtout de sons. On va revenir là-dessus. Et le spectacle commence par vraiment une personnification de cette 504. Indestructible, c'était le slogan publicitaire à l'époque. On va dans le début des 30 Glorieuses, là.
Ouais.
On est au moment aussi où la publicité se prend pour...
La maîtresse du monde.
Merci, c'est Julie. Et peut-être pour essayer à notre tour de plonger les auditeuristes dans ce spectacle, de leur donner surtout l'envie de voir Courez-y, il sait jusqu'à samedi. On peut peut-être commencer par le prologue et par lire un petit morceau du prologue sur cette fameuse 504.
Avec plaisir. Vous allez entendre un extrait du début du spectacle.
On a choisi celui-là, oui. C'est ça, de la voix de cette 504. C'est ça, l'immersion dans le corps de cette voiture.
C'est ça, dans les entrailles.
Qui est un peu dépecé sur scène, parce que je crois que... voilà, il y a des textes qui arrivent d'abord un peu au... on le verra tout à l'heure, en acousmatique, c'est-à-dire on ne sait pas d'où ils sortent vraiment, et on est plongé, et il y a un acteur, je ne sais même pas, qui Et on y reviendra aussi, ça, c'est plus un collectif que des visages, peut-être. Et qui est là avec une portière, non?
Oui, oui, c'est vrai.
C'est ça.
Qui comme... se branle un peu dessus, comme si...
Allez-y, venez.
Est-ce que c'est
voir.
Ça? C'est ce texte-là?
Alors là, on a pris, on s'est dit que là, l'extrait qu'on va lire là tout de suite, c'est le début, c'est-à-dire le texte qui est enregistré, donc c'est vraiment la voix de la 504, comme si c'était les entrailles de cette voiture qui nous parle d'elle.
Qui nous parle, voilà, de qui elle est et de quoi elle est faite.
Eh bien, je suis faite de tôle et de sueur. Sous mon capot, des gouttes d'huile et de sang. Cylindré 1,8 litre à injection, siège mobile et appui-tête, vitesse de pointe 170 km/h, compression 8,3,1.
Bon, juste la plaie d'un dos usé à graisser mes vis. Mes jantes, l'acidité d'une peau brûlée à force de garnir mes muscles. Intestin acier, organes essieux, châssis intime.
Henry Ford nous regarde, déduit de l'observation d'un abattoir l'organisation de sa chaîne de montage. Fera du capital le maître de la nature.
Dans mon ventre, le monde est un écran qui s'enroule et défile.
La boue ne me fait pas peur.
La poussière ne me fait pas peur.
La pluie ne me fait pas peur.
Le vent ne me fait pas peur.
Le sable ne me fait pas peur.
La pierre ne me fait pas peur.
Je suis
l'indestructible,
l'infatigable,
l'inégalable,
l'indémodable,
l'incassable,
l'inclassable.
J'ai pratiqué des pistes impraticables.
J'ai affronté les routes les plus coriaces,
empoigné des rochers,
dévalé des montagnes,
traqué l'impossible,
pulvérisé les limites,
dépouillé la chair du temps.
Ici
flambe ma mémoire. Je suis la 504. Je fonce, je crisse,
je torpille l'histoire. Porté par les milliards de poignées travailleurs des usines de Sochaux.
Sous mon corps, l'ombre gigantesque, la main-d'œuvre étrangère.
Carte de travail, date de début,
date de fin.
4000 pistons par jour.
350 tonnes de tôle par an.
Pour me construire, on va recruter loin. On s'enfonce dans la brousse. Annaba, Gao, Tanger, Casablanca.
On donne des papiers, un salaire. On prend des risques, on doit reconstruire. Coûte que coûte, continuer à briller.
Faire oublier la ruine, Vichy et Dien Bien Phu.
Des beaux quartiers de Paris,
au faubourg de Dakar. De Lagos à New York.
J'illumine.
Je séduis.
Je sublime la famille, toutes les routes des vacances.
Je suis l'opium du peuple et l'avenir d'une planète.
Plus forte que la peur qu'un jour l'Empire s'effondre. À chaque goutte de diesel, j'écris l'avenir du monde.
Merci.
Petite impro.
Voilà.
C'était l'échauffement. Merci. Merci. Super. Super. Peut-être c'est l'occasion, Manon, de parler un peu de l'origine du projet. Déjà, on s'est dit ça tout à l'heure et on va le faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent là ces derniers jours dans l'actualité et qui font écho à. Au fil, au sujet, au thème de ce spectacle indestructible qui est pas du tout qu'historique ou que documentaire, mais qui a été conçu et écrit de façon très hybride pour précisément dire qu'on est là, on est dedans.
Tout à fait. En fait, ce projet, il a commencé par une rencontre, celle que j'ai faite d'Hakim Ba, qui n'est pas là ce matin, mais qui est le co-auteur et co-metteur en scène de ce spectacle. Et on a tous les deux, en fait, été mis en lien, on va dire, par un livre qu'on a lu, un livre écrit par Robert Linhart dans les années 70, qui témoigne de son expérience d'établissement en usine. Donc c'était des étudiants qui étaient maoïstes, révolutionnaires dans ces années-là, et qui décidaient de quitter leur cursus universitaire pour aller travailler en usine aux côtés des ouvriers, ouvrières, monter des grèves, et abolir le patronat et voilà, faire advenir la révolution un peu partout. Et de ça, en lisant ce témoignage écrit par Robert Linhart, il nous est apparu qu'en fait il y avait des personnages ou des personnes qui citaient dans ce livre-là qui n'avaient pas vraiment la parole dans ce livre, et notamment les immigrés. Et donc c'est aussi évidemment par écho direct avec ce qui est en train de se jouer en France et plus largement en Europe et dans le monde sur la question de l'accueil et l'histoire de ça. En fait, on a découvert beaucoup de choses en lisant ce livre-là, notamment qu'il y avait eu des luttes sociales croisées très 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 fortes dans ces années-là, une solidarité entre Français et immigrés vraiment dans les milieux ouvriers, qui ont mené à des changements de la politique migratoire et qui ont en fait abouti aussi à des situations qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de effectivement remonter un peu le temps jusqu'à cette période, mais pour éclairer ce qu'on est en train de vivre et d'où on vient et comment juste après les indépendances, donc dans les années 60, la France doit se reconstruire comme on l'entend dès le début, et qu'est-ce qui se joue effectivement quand c'est Il y a une arrivée dans les usines de ces personnes immigrées et comment elles sont reçues, qu'est-ce qui est posé en termes de loi, qu'est-ce qui évolue dans le spectacle. On parle par exemple du décret du regroupement familial et on essaie de, voilà, de renseigner un petit peu. C'était l'aspect documentaire, il était important surtout pour, à titre vraiment informatif, enfin voilà, pour apprendre, comme nous on l'a fait avec Hakim, en se replongeant dans cette histoire, pour apprendre vraiment les racines de là où, d'où on vient, mais surtout aussi pour mettre en fiction et mettre en avant des parcours et des vies derrière ces chiffres ou ces textes ou de loi ou ces faits historiques pour mettre notre focus sur Bakary par exemple qui arrive du Mali. Et donc on a écrit à deux et il y a eu un croisement assez évident entre nos deux parcours et aussi les luttes féministes, les luttes homosexuelles de l'époque qui rencontrent ces solidarités là. Donc effectivement, on part toujours de ce qu'on est en train de vivre et il y a une résonance avec l'actualité qui fait que c'est un spectacle qui se passe dans un temps qui n'est plus celui qu'on vit, mais qui répond beaucoup à ce qu'on est en train de traverser et ce qui est en train de se jouer aussi, qui est très inquiétant.
C'est sûr, parce que par exemple, tu parlais donc du regroupement familial et de l'hypocrisie à l'époque qui est très bien explicitée dans le spectacle à travers un échange, un dialogue. Justement, je pense que c'est toi, Adil, qui à un moment donné incarne un personnage qui fait chanter l'ouvrier sur son éventuel regroupement familial.
Oui, tout à fait, ouais.
Donc Adil Laboudi, tu joues dans le spectacle plusieurs personnages,
ouais.
dont un, celui que je viens
de... Voilà, dont le contremaître, donc qui en effet met la pression au personnage principal en lui disant que pour obtenir le regroupement familial, donc obtenir que sa femme et son enfant puissent venir ici en France et avoir des papiers, il fallait qu'il ait des avis favorables, voilà, qu'il ferme sa gueule. Et surtout qu'il ait des avis favorables, qu'il travaille correctement qu'il ait un travail déjà. Il faut qu'il ait un travail et qu'il ait des avis favorables lors de ce travail. Enfin.
Et du coup, effectivement, entre guillemets, il l'utilise en lui disant que comme il a le contremaître avant du fait qu'il y a possiblement des grèves qui se fomentent en ce moment dans l'usine, qu'en fait, il demande au personnage de Bakary de dénoncer.
D'être un indic.
En lui disant que s'il le fait pas, effectivement, il lui donnera pas d'avis favorable et tout ça. Enfin, c'est... Et j'imagine très bien que ça a dû se passer des milliers de fois, ça.
Ouais, on s'est beaucoup renseigné sur l'histoire de ça. On est parti vraiment de témoignages et de l'histoire. Enfin, ça s'est passé effectivement comme ça.
Et l'hypocrisie du capitalisme à aller chercher de la main-d'œuvre, enfin, ce que moi je considère presque comme étant de l'extractivisme humain. et en plus, il faut dire merci. Et en fait, c'est plein de gratitude et d'obéissance, alors qu'on est en train de se faire parfaitement exploité, puisque en plus donc ces ouvriers chez Peugeot étaient maltraités puissance X par rapport aux autres ouvriers.
Ouais.
Mais ce qui effectivement est encore tellement le cas aujourd'hui. Et cette hypocrisie, par exemple, dont tu parles, elle est incroyable en ce moment. C'est-à-dire que le discours là droitier qui existe sur effectivement, et on parle même pas des États-Unis qui feraient croire que les États-Unis pourraient tourner sans immigrés, alors qu'en fait, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible.
Et massivement c'est déjà reconduit à la frontière.
C'est ça. Et il y a déjà massivement des énormes problèmes dans les entreprises parce qu'en fait, il y a une main d'œuvre qui est en train de disparaître et donc les entreprises ne tournent plus. C'est vraiment d'un mensonge. C'est incroyable, quoi. Et effectivement, humainement, ce que ça génère.
Mais c'est même pas que l'hypocrisie, c'est aussi. Moi, mon papa est donc ouvrier et effectivement, des personnes en France sont venues au Maroc, en Algérie, etc., ont ouvert des agences pour recruter des ouvriers, ils faisaient passer des tests, etc. Bon, bref, ils les font venir en France. Et aujourd'hui, quand on entend l'illusion, donc on s'est servi d'eux comme des outils ici, ils ont travaillé toute leur vie, mon papa a travaillé en usine, mon oncle a aussi travaillé d'ailleurs chez Peugeot où il a perdu un doigt. Et aujourd'hui, quand on entend l'illusion qu'on va pouvoir renvoyer les Arabes, etc., dans leur pays, moi, c'est plus que ça. C'est en fait la considération de l'être humain qui n'est pas un être humain, qui est juste un outil qu'on prend d'un endroit, qu'on ramène à un autre et qu'on qu'on rapporte à son pays d'origine. Enfin,
c'est pour ça que le mot extractivisme de nain dont tu parles est hyper juste. C'est vraiment. On prend et obsolescence programmée, quoi.
Et c'est vrai que dans l'actualité tout à fait récente, ça fait quand même très écho à la circulaire Retailleau, qui. Non pas redéfini déjà un concept absolument louche et intolérable qui consiste à parler d'intégration. Donc c'est quoi l'intégration? Et alors lui là déjà c'était pas clair les critères que les avocats ou que les personnes pouvaient utiliser voilà, je crois que dernièrement il fallait quand même être prouvé qu'on était en France avec la même brosse à dents dans le truc de la salle de bain de un soi-disant français pour éventuellement prétendre à obtenir des papiers. Et là c'est pire parce que donc il met il rend le critère d'intégration qu'il continue à affirmer comme essentiel totalement comment on peut dire sans critère et donc complètement partial voilà parce que ce n'est qu'une circulaire donc c'est juste un mot d'ordre au préfet ou préfecture voilà par exemple et puis juste avant les auditoristes de Cause Commune ont pu réentendre la réédition d'un direct qui a eu lieu hier à la radio d'un coin quelque part qui parlait de cette tribune qui vient d'être publiée dans Le Monde hier par énormément de
collectifs, associations,
voilà, dont des collectifs que qu'on connaît bien ici à Cause Commune, Accept ST, le Stras, etc. Sur un espèce d'état des lieux de 10 ans de non-accueil, voilà, tout ça faisant écho à cette aventure d'indestructible, et qui, alors tu parlais aussi des luttes féministes. Qui je crois une des choses qu'on ressent vraiment et par lesquelles on est vraiment touché c'est aussi ce que tu viens de confier à Adil, c'est cette révision de la frontière entre l'intime et le politique en fait entre
c'est d'autant plus marqué d'autant plus marqué sur le personnage, enfin, que je peux incarner.
En tout cas, sur la rencontre deux femmes au plateau.
Mais en fait, je sais pas si c'est plus marqué dans cette rencontre que finalement dans la rencontre qu'il y a effectivement entre quasiment toutes les personnes. Et comme tu le disais, c'est un kaléidoscope aussi de plusieurs personnages. Nous, actrices au plateau, on en joue plusieurs. Et c'est vrai que c'est aussi l'objectif qu'on a essayé d'avoir, par exemple, dans l'usine, de faire en sorte que les ouvriers, ouvrières qu'on incarne, donnent la sens, enfin, de faire sentir à quel point il y a une vie derrière, que c'est pas juste une fonction dans une usine, quoi. C'est que il y a des histoires, il y a des vies, et elles sont multiples, et qu'effectivement l'usine rassemble toutes ces personnes-là. Et peut-être que les moments de grève ou de lutte sont les moments où effectivement quelque chose fait commun, quelque chose fait cause commune. mais tu vois, c'est souvent dans ces moments-là. Qu'on réalise aussi parce qu'à un moment il y a une scène de grève dans le spectacle et par exemple on sent que les gens se mettent à raconter leur vie, à donner à entendre qu'est-ce que ça leur coûte, qu'est-ce qui se passe derrière quand ils sortent de l'usine, quoi. Et c'est peut-être souvent dans les moments de lutte que ces choses-là se racontent. Sinon c'est par affinité, on a peut-être un ami ou deux dans nos collègues de travail, mais la plupart du temps on a très peu accès à qui sont ces vies, qui sont ces gens derrière ça, quoi. Et moi, je sais que ça me parle de ça, en tout cas aussi sur la question des luttes, que c'est souvent dans ces moments-là que une brèche s'ouvre sur l'humanité de la personne avec qui on partage notre quotidien, le travail et tout ça. Et quand on se met à être un peu touché par ça, quand l'empathie arrive, pour moi, la lutte est souvent pas loin, quoi. Parce que effectivement, tout à coup, on se rend compte qu'on est plusieurs, qu'on a besoin les uns des autres et tout ça.
Et la complexité de ça, enfin, pour rebondir, effectivement, je suis hyper d'accord avec cet endroit-là. C'est vraiment ce qu'on a cherché à explorer, théâtralement, dans le fait d'avoir l'essentiel presque du spectacle qui se déroule dans une usine, donc un lieu qui rassemble énormément de personnes qui ont des trajectoires différentes et des parcours très très différents, et parfois qui même la question de comment on donne accès à une intimité dans ces espaces-là, et a fortiori dans un moment de lutte, elle est au cœur de ce qu'on essaye de raconter, et la difficulté aussi parfois que c'est de se raconter justement aux autres les tiraillements que ça peut susciter, les déchirements intérieurs. Enfin voilà, je vais pas raconter toutes les fils narratifs du spectacle, mais en tout cas on tourne autour de cette question-là. Qu'est-ce qui vraiment peut faire conflit en nous quand on se mobilise pour une cause commune, collective, et avec d'autres qui sont aussi parfois très loin d'une intimité ou d'enjeux plus intimes, intérieurs, personnels, qu'on peut chacun et chacune avoir. Et donc vraiment, comment en fait elle est très difficile à résoudre, cette équation là
mais je pense qu'en fait quand même, dans le côté documentaire ou historique ou rappel ou mémoire en fait, vraiment vivante de ces luttes des années 70, dans l'écriture, donc dans la dramaturgie, il y a deux personnages qui sont Cathy et Paquita.
Ouais.
Alors si je me trompe pas, Cathy c'est interprété par Catel Ian, c'est ça?
Catel Jean.
Ouais. Qui n'interprète que son personnage à elle, alors ouais. que tous les autres acteurs sont tout à fait versatiles, échangent, vont d'un personnage
tous,
à un autre.
Sauf l'autre personnage principal, Bakary, qui est interprété par Hassan Timbo.
Et Bakary, donc, qui vient du Mali.
Voilà.
Voilà, on va en reparler. Et donc, Cathy, elle est dans cette rencontre avec Paquita. Peut-être, Julie, tu peux nous décrire un peu. Moi, je trouve que c'est important parce que ça donnait de quelque chose de très concret sur peut-être quand même je sais pas si c'est le début, mais en tout cas un moment où s'est produit une intersectionnalité des luttes très forte.
Ben en tout cas une tentative, et après justement dans leur couple, donc c'est effectivement une rencontre Cathy et Paquita, on a deux fois dans le spectacle accès à leur vie intime, le début et la fin. la fin, on sait pas d'ailleurs si c'est une fin, mais en tout cas c'est justement le moment où le personnage de Cathy décide d'aller s'embaucher à Sochaux, mm-hmm. pour se faire établi, et effectivement bah ça pose une vraie question sur l'intersectionnalité, puisque donc le personnage de Paquita incarnerait un petit peu les luttes LGBTQI+++, ce qu'on dirait aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque, mais et en fait il y a des grands soucis à l'époque, bah typiquement chez les ouvriers ouvrières, à la CGT, dans les syndicats, où les homosexuels sont absolument rejetés à plein d'égards, insultés. Mm-hmm. C'est encore une période où en France c'est absolument pas du tout accepté, c'est presque illégal. Et donc il y a un vrai questionnement. En tout cas, le personnage de Paquita amène ce questionnement de dire, mais est-ce que moi je vais être d'accord d'aller lutter pour des gens qui m'insultent en fait. Mmh. C'est-à-dire, donc, est-ce que je suis d'accord d'aller lutter effectivement avec les syndicats, etc., alors qu'en fait on me rejette en tant que personne dans mon être, dans mon identité. Cathy, elle va essayer de faire ça. Après, on se rend bien compte, par exemple, que quand elle est à l'usine, elle ne dira pas qu'elle est homosexuelle. Donc il y a une vraie question là-dessus, quoi.
Et elle est très interpellée sur d'où elle vient, pourquoi elle est là. Exactement. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire, en fait, ce qu'elle transpire de son être et de son discours aussi. Ça, c'est super intéressant. Manon ?
Oui, bah, de toute façon, c'est la question centrale, vraiment, et je prends ce mot au sens très très large, c'est la question de l'identité, évidemment, c'est qui on est et comment on a des identités parfois politiques dans des contextes de lutte et d'engagement, qui sont des identités, je dirais pas extérieures non plus, mais je veux dire qui peuvent parfois aussi rentrer en conflit avec une façon d'être, une façon de s'incarner ou d'aimer, etc. Et qui peuvent parfois distribuer différemment la façon dont on se présente, la façon dont on se révèle à soi-même ou on se révèle dans une rencontre. Et qu'est-ce qu'on décide plus ou moins consciemment de dire, de dire sur soi, comment on se raconte soi-même dans ces espaces-là. Moi, ça me paraît vraiment central aujourd'hui, évidemment, d'où on parle, qui on est, comment on se situe, et comment ça, dans la vie intime, ça peut se déployer, en fait, de plein de façons différentes, et qu'est-ce qui, à un moment donné, peut alimenter voilà, un combat commun, comment on peut faire front aussi et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi quand on s'engage vers une ou une partie de ces luttes-là, ou est-ce qu'on peut vraiment essayer de tout rassembler et de tout revendiquer en même temps. Voilà, c'est des questions un peu énormes et c'est là où on a trouvé un pont entre ces années-là et une période où ça se met en forme aussi politiquement avec des organisations comme le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire qui est un petit peu oublié aujourd'hui mais mmh. auquel on fait référence et dont fait partie le personnage de Paquita. Et donc, c'est aussi des racines. Et moi, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de remontrer des généalogies, de savoir qu'on se bat pour aussi... dans le prolongement de plein de luttes qui ont été très très fortes en France notamment, parce qu'on parle d'ici dans ces années-là, et comment on en est les héritiers, les héritières, et on essaye évidemment aussi de les actualiser dans une époque qui a complètement changé. On n'est plus du tout évidemment en mai 68.
Non, mais en même temps, c'est affolant comment ça fait miroir et écho à toute la régression actuelle, ouais. notamment de la transphobie, de l'homophobie, de l'islamophobie, et toute l'extrême droitisation. C'est fou, qui annulerait presque justement ces 50 dernières années ou ces 40 dernières années, tout serait compressé ou aplati, je sais pas, moi j'ai cette sensation-là qui prend à la gorge.
La sensation que ça me donne aussi, c'est justement, plus les avancées sont fortes ou grandes, plus ça crée de la peur en face, mm-hmm. dans le sens où on voit par exemple, j'en sais rien, il y a aussi tous les mouvements masculinistes par exemple, mm-hmm. où effectivement on se dit, mais c'est parce qu'il y a eu des avancées féministes incroyables, mm-hmm. qu'effectivement en fait, ça fait paniquer toutes les personnes qui n'auraient pas voulu ça. Donc du coup, la répression est d'autant plus forte. Pour moi, c'est du même ordre que, par exemple, voilà, le fait que les gouvernements envoient des militaires dans des ZAD de 300 pélos qui élèvent des chèvres. Mmh. Je dis, mais pourquoi on leur fait si peur ? Mmh. Pourquoi ils envoient des militaires ? Parce qu'en fait, c'est ouvrir une brèche dans quelque chose qui serait réellement inventif, novateur et tout ça. Et si le monde pouvait voir ça, y aurait tellement de choses auxquelles on pourrait plus croire et qu'on accepterait plus. Et pour moi, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire que, par exemple, vraiment, les mouvements en ce moment totalement réactionnaires sur les rapports hommes-femmes, sur aussi l'immigration, etc., pour moi, sont à l'échelle des avancées qui ont eu lieu, quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi terrifiant de se dire, est-ce que c'est possible qu'on revienne à ce point-là en arrière? Et en même temps, ça prouve à quel point ça a avancé, quoi. Ça prouve à quel point il y a eu ce mouvement-là. Le problème, c'est qu'on peut revenir, comme tu dis, on peut compresser en un claquement de doigts, quoi. Là, ce qui se passe aux États-Unis et où tu te dis, voilà, c'est vraiment possible. C'est-à-dire que c'est vraiment possible qu'ils fassent ça et que du jour au lendemain, ils fassent disparaître des lois, ils ressortent des milliers de personnes du pays. Enfin, voilà. Ça, c'est terrorisant de se dire à quel point il faut du temps pour les luttes, pour obtenir deux, trois trucs, et à quel point il faut 10 secondes pour tout balayer.
Là, je sais pas, il y a comme Simone Veil qui passe là et qui dit que rien n'est jamais acquis, et d'ailleurs c'est les 50 ans aussi cette année de l'autorisation de l'IVG.
La légalisation, ouais,
et il est partout dans le monde remis en question, c'est fou, quoi. Ouais. Et elle avait un peu prévenu que c'était...
Qu'il fallait
fragile.
Faire attention.
Ouais. Ouais. Il y a un autre personnage dans Indestructible qui est Bakary. Bakary, il vient du Mali et je vais en profiter pour vous faire écouter un petit son.
Ouais.
Vous voulez bien ?
On y va.
C'est le teaser d'un film qui s'appelle Les Voies Croisées.
C'est impeccable. Seule l'agriculture élimine la famine. On a vécu sur le sol de Soma qui de Koura ici. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 heures, c'est 40 ans.
Je commence à faire des photos tous les jours dans les foyers, en noir et blanc, en couleur, en diapo. je ne m'arrêterai pas. Je prends des photos pour qu'elles circulent, de main en main, entre les banlieues et Paris, d'un continent à l'autre. Il n'y a que nous qui puissions faire ce travail. Tôt ou tard, il faut absolument que le réveil sonne. Oui, il faut que le réveil sonne. Il faut que le réveil sonne. Il faut que le réveil sonne. Il faut que le réveil sonne.
Voilà, il s'agit donc du teaser de Les Voix Croisées, qui est un film de Booba Touré, dont on entend la voix. Booba, ça, en fait, merci à Indestructible de me permettre de tirer ce fil et de rendre hommage à Booba Touré qui est décédé en fin 2022. Et le film est sorti, je pense, au moment où juste après son départ. Booba était quelqu'un de une très belle personne, quelqu'un de très très engagé. Il était photographe, il venait du Mali. Il avait commencé au moment de son arrivée par être ouvrier et vivre plein de galères. Et puis, il s'est battu et il a été notamment projectionniste dans des cinémas d'art et d'essai comme l'Entrepôt. Et le 14 juillet, il était assez connu pour ça. Et il s'occupait beaucoup du foyer africain de Charonne. Il y a un autre film qui s'appelle 58 rue Trousseau, où il filme l'intérieur et toutes ses photos. C'était quelqu'un donc qui avait un foyer là, africain, vous savez, tout juste à côté du palais de la femme, là, qui, je crois, n'existe plus. Ça vient d'être transformé en logements sociaux, mais j'en suis même pas sûre. Et je me souviens, moi, dans les années 90, tous les matins, il y avait des camions qui arrivaient, là, pour ramasser les personnes qui étaient dans le foyer, les travailleurs, hein, sans papier, qui les faisaient monter dans les... On se serait cru, je sais pas, dans les camions derrière, quoi. Ils partaient, ils étaient juste embauchés pour la journée. Voilà. Et donc, Les Voix Croisées racontent la coopérative agricole que, parallèlement, dans le même temps et pendant 40 ans, Booba a contribué à faire naître au Mali comme une espèce de tentative de permaculture, hein, pour également dire et dénoncer ce qui se passait aussi au niveau de l'agriculture et de façon tout typiquement coloniale, hein, voilà. Et donc je voulais tendre cette perche et faire écouter ce son, peut-être pour que Manon tu nous reparles de Bakary dans le spectacle.
Ouais, je vais juste rebondir sur une chose, parce que ça m'y fait penser, le fait que tu remercies Indestructible de te permettre de parler de ça.
Ouais.
C'est juste, il y a un retour qui m'a beaucoup touchée d'une spectatrice il y a deux jours, qui m'a dit qu'elle était venue au spectacle avec, voilà, une amie de ses parents qu'elle connaissait pas très bien. Elles se sont retrouvées à venir toutes les deux. Et en parlant à la sortie, cette amie découvre, en parlant à cette personne avec qui elle est venue et qu'elle connaît pas très bien, que cette personne fait de travailler dans une association, enfin milite plutôt dans une association pour faire de l'accueil de personnes migrantes. Mmh. Et elle ne le savait pas. Et je me dis, en fait, c'est aussi important de pour moi en tout cas, faire des spectacles comme celui-là pour après que les gens se rencontrent autour de leurs engagements. Mmh. C'est ce qui se passe dans le spectacle, c'est ce qu'on raconte. Et c'est un type de rencontre qui est peut-être particulier, mais qui est tellement essentiel aujourd'hui. C'est ce qui se passe aussi, bon, je pense par exemple à la période des législatives aussi, où on s'est très fort rencontré autour de ça avec des gens avec qui parfois on a peut-être moins de choses justement en commun. Donc la question de qu'est-ce qui fait commun et comment on peut s'agréger ensemble, même si on a des vies qui font qu'on se croise peu ou qu'on se rencontre pas forcément tous les jours ou sur tous les sujets. Et ça, je trouve ça vraiment important. Après, pour revenir surtout sur le personnage de Bakary, Bakary, oui, on est passé par plein d'étapes dans l'écriture. Il faudrait qu'Hakim soit là aussi pour en parler, mais en tout cas, c'était important pour nous de le mettre au centre déjà de la fiction. Et c'est venu de certains passages du livre de Robert Linhart qui évoque des travailleurs qui arrivent d'Afrique subsaharienne, donc vraiment Sénégal, Mali, etc. Et Hakim lui-même, étant originaire de Guinée, avait envie aussi de parler de ces ces peuples-là qui viennent aussi dans ces années-là en France. Après, son parcours à lui dans le spectacle, c'est un personnage qui justement jongle tout le temps entre une forme de pudeur peut-être sur sa vie justement privée, disons intime, et les engagements qu'il prend. Il raconte qu'il a fui le Mali de Modibo Keïta au moment où les milices du régime communiste commencent à réprimer. Et donc, ce qui était aussi très très important pour nous, c'est d'en faire un personnage qui se bat, qui prend la parole aussi pour défendre les droits de ses camarades. Et donc, c'est vraiment aussi comme ça qu'on le découvre dans le spectacle. La première scène où on le rencontre, c'est une scène où il refuse de travailler dans des conditions trop dures sur les docks du port de Marseille. Mmh. On est aussi allé faire des explorations avec les dockers de Marseille qui nous ont parlé de ces années-là, etc. Et tout au long du spectacle, on va le rencontrer justement dans des situations de combat et où voilà, il parle aussi au nom des autres. Et comment il parle de lui en parlant au nom des autres, c'est quelque chose qui traverse un petit peu tout son parcours dans le spectacle. Je sais pas si vous voulez rajouter.
Bah en tout cas, oui, et ça, je trouve que c'est une des choses extrêmement rares et ça me fait repenser à tout à l'heure la question de l'intégration et tout ça. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un d'immigré, quel que soit a priori, n'est pas là pour venir se battre. Ne peut pas être militant ou militante parce que il faut qu'elle c'est que cette personne-là s'intègre, et s'intégrer c'est fermer sa gueule pour surtout ne pas faire de vagues, etc. Et donc ça je trouve ça rare d'avoir cette parole-là. On a rarement, que ce soit au cinéma ou au théâtre, des personnages de personnes immigrées qui effectivement sont des militants ou des militantes. Généralement on les voit plutôt subissants. Plutôt silencieuse. Et ça, enfin, moi, déjà, ça, ce parti que vous avez pris, pour moi, raconte déjà beaucoup. Et fait du bien. Enfin, change plein de rapports, en fait.
Je crois qu'en fait, le spectacle, il est, je sais pas si c'est le mot juste, mais il est performatif. Pour résumer un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, alors je serais incapable de raconter de A à Z. Enfin, il n'y a pas eu de fil. C'est des tableaux, c'est des moments, c'est beaucoup de sons. On va y revenir, qui en fait provoquent comme un rêve ou des remontées, mais surtout aussi le partage avec la salle, avec les spectateurs. D'un certain inconscient collectif qui est là et qui pourtant est tellement invisibilisé en fait, ou tue, comme tu disais Julie, c'est-à-dire à quel moment on donne cette parole de la personne racisée ou du migrant qui viendrait non pas simplement parce qu'on lui a vendu des besoins ou parce qu'on va l'exploiter, mais simplement aussi vivre quoi, et avoir des droits, et revendiquer des droits, passer du besoin au droit en fait, quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est pas, même s'il y a une dimension, je trouve, dans ton théâtre, dans votre théâtre, parce qu'il y a quelque chose que j'ai ressenti aussi de très collectif, où chacun apportait ce qu'il avait à apporter au moment où ça s'est produit. Il y a quelque chose de très brechtien, de très didactique, hein, mais en même temps pas, parce que c'est une espèce de plongée.
Ouais. Ben ça, c'est hyper important dans tout. Moi, en tout cas, c'est un filtre par lequel je passe à chaque fois. Et peut-être brechtien, mais plutôt brechtien un peu en sous-sol, quoi. Un peu underground. Un peu où on descend. Comment dire, aussi, on provoque des sensations physiques chez les gens. Ça s'adresse. C'est particulièrement ce spectacle-là. Il est beaucoup dans la parole. Il y a beaucoup de scènes avec des gens qui parlent, qui se parlent, et ça parle. Mais en même temps, effectivement, tout cet environnement que tu as ressenti, c'était aussi voulu pour imprégner les sensations vraiment physiques qui peuvent sortir de cet espace qui est déjà assez abstrait, qu'on n'a pas voulu réaliste, et qui en même temps cite des espaces très réels, qui travaillent sur les matières, parfois même sur les odeurs ou sur la perception. En tout cas, je pense au début du spectacle avec Adil, justement, qui est là et pas là en même temps. Donc oui, tout du long, on a creusé cette cette chose-là pour qu'aussi ce soit une expérience quoi, un peu plus globale qu'une pièce didactique de Brecht, par exemple.
Non, je pense que Brecht, c'est aussi les différents niveaux de lecture et les mises en abyme. Mais effectivement, il y a comme des couches qui s'amoncellent au fur et à mesure du spectacle et des sensations. On est touché. Et aussi, on en parlait avec Adil. C'est paradoxal, mais cette ambivalence, je crois, elle parle aussi. C'est-à-dire que, comme dit Julie, il y a des personnages qu'on voit très rarement au théâtre, qui prennent la parole, enfin, des situations qui se créent où cette parole émerge, en fait. Mais on n'est pas dans l'héroïsation. Il n'y a pas d'héroïsation de ce malien ou de la lesbienne ou de donc on est plus dans une écoute qui peut-être même efface des visages, et d'ailleurs tu nous plonges un peu dans quelque chose d'assez obscur au niveau lumière.
Ouais, c'est voulu
et donc ça c'est, je sais pas comment dire, c'est un peu un théâtre physiologique en fait.
Non. J'aime bien ce que tu dis sur le fait de ne pas héroïser, parce que peut-être que ça génère quelque chose comme effectivement on va avoir ce personnage de Bakary, ce personnage de Cathy sur lesquels peut-être on met plus une lumière sur les, là dans ce spectacle, mais finalement ça pourrait être n'importe quel autre. Ça aurait pu en être plein d'autres. Simplement, voilà, c'est de là qu'on éclaire ce jour-là. Mais comme il n'y a pas effectivement d'héroïsation dans leur attitude, dans leur manière de faire, on se dit pas effectivement ils sont uniques. Et c'est vrai que je l'aurais pas nommé comme ça, mais je trouve ça hyper intéressant cette chose-là, parce que peut-être que c'est là que ça se met à parler un petit peu de la multiplicité, de toutes ces vies-là, et effectivement de pas se dire qu'il y a eu quelques personnes qui ont été des héros ou des héroïnes et qui ont fait avancer les luttes, en fait, que ces luttes ont avancé par des milliers de gens et qui n'étaient pas forcément dans un acte incroyable ou de résistance ou je sais pas trop quoi. Et c'est vrai que je l'aurais pas nommé comme ça, mais je trouve...
Ouais. C'est pour ça qu'aussi on est six, enfin, il y a six interprètes au plateau aussi pour cette raison. On n'aurait pas pu écrire ce spectacle, enfin, le monter en tout cas avec deux interprètes, ça aurait été un contresens, quoi. Vraiment, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'apporte aussi cette choralité, le fait que...
Voilà, c'est ça, il y a une polyphonie, choralité. Et au niveau, par exemple, Adil et Julie, au niveau du jeu d'acteur, je trouve aussi, en fait, et ça je vous en remercie aussi, et je crois que ça fait partie aussi d'une philosophie écoféministe, c'est que c'est un sujet grave traité avec beaucoup d'humour, de légèreté et de joie aussi, de joie. Enfin, en tout cas, de brillance, c'est pas, ça plombe pas. Et ça fait partie d'un message, je trouve. En tout cas, moi, qui m'a bouleversé, qui fait qu'on ressort, et je le dis aux auditeurs, allez le voir, hein, c'est jusqu'à samedi. On ressort revigoré, on ressort,
Oui, c'est vrai que personne ne sort de là, alors que bon, les constats sont loin d'être très lumineux. Mais personne, effectivement, et même les gens du bar du théâtre m'ont dit qu'ils adoraient l'énergie avec laquelle les gens sortaient.
C'est ça.
Ouais, la nana du bar. Bah ouais. Elle m'a dit qu'il y avait un truc très agréable dans l'énergie que véhiculaient les gens quand ils sortaient du spectacle et qu'ils venaient boire un coup ou manger au bar. Je trouve ça hyper, c'est hyper beau.
Bah oui, c'est hyper important.
Parce que c'est concret, quoi.
C'est hyper important. Ouais. Ouais, c'était voulu en tout cas.
Alors c'est peut-être le moment où je peux faire peut-être une petite pause musicale en rappelant que quand j'y étais vendredi, le théâtre avait invité à chanter des chants de lutte.
Eh oui.
Je le dis pour les éditoristes, dans déjà un quart d'heure, on va devoir rendre l'antenne, mais on va continuer peut-être à enregistrer. Il y aura peut-être un second volet pour retrouver donc Manon Worms, Julie Moulier et Adil Laboudi. Vous aurez peut-être une deuxième partie bientôt diffusée, mais celle-là en différé. Mais donc le vendredi soir, on a été invité par à la fois la compagnie, qui, je ne l'ai pas encore dit, s'appelle...
Krasna,
qui veut dire rouge en russe.
Qui veut dire rouge et beau en russe.
Rouge et beau.
C'est le pseudonyme de Chris Marker.
Ah.
Ouais.
Ok.
Dans son soleil.
Très bien. Et donc on a chanté, on était invités et on a chanté, il y avait un livret, tout était prêt pour chanter des chansons des années 70, hein, des années de lutte. Il y en a une qui m'a beaucoup émue, c'est la Catalane à la fin. Mmh. Et j'ai trouvé là, et je me permets, j'ai trouvé une clown qui, dans un spectacle récemment, la chante et je trouvais qu'elle la chantait bien. Alors je vous la fais écouter un petit peu, d'accord.
Je n'étais qu'un gosse. Mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, pour regarder passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd. La force vient à me manquer. Je me demande si un jour qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé. Un vent mauvais là. Je reste seule sous le porche à regarder jouer d'autres gosses dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Et nous aurons liberté.
C'est beau. Magnifique.
Ok, très bien. Vous êtes donc sur Cause Commune. C'est l'émission Un Corps au Corps en direct. On a encore petite dizaine de minutes avant de rendre l'antenne et peut-être de continuer notre échange. Ça va, Julie, Manon, Adil?
Ça va très bien.
Peut-être, ce serait intéressant de savoir comment vous avez travaillé, vous, les acteurs.
Ouais, comment ça?
Oui.
Ah bah peut-être, oui, oui, oui. Bah peut-être sur cette question de la multiplicité des personnages aussi, qui est forcément toujours fréquente dans les spectacles, même si ça le devient de plus en plus. Mais dans les écritures contemporaines et tout ça. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a une chose que j'adore là-dedans, qui est complètement une autre manière d'aborder le travail d'actrice que quand on n'a qu'un seul rôle. Parce que justement, il y a, je sais pas comment dire, il faut aller chercher la définition de la vie qu'on doit incarner parfois sur une seule scène. Donc, comment faire émerger un être entier quand on a un rôle, voilà, un personnage qui se déroule sur tout un spectacle. Il y a mille facettes qui vont permettre aux gens de dessiner une vie. Et je trouve ça hyper beau comme travail de devoir se dire, ok, en une scène, en parfois quelques minutes à peine. Faire en sorte effectivement que les gens puissent sentir qu'il y a tout un être et toute une vie derrière, quoi. Et du coup, j'aime bien parce que je sais pas, bah chacun on a nos entre guillemets nos méthodes, nos façons. Moi, je sais que par exemple, ça va être ça va beaucoup passer par le fait de définir un corps très précis, enfin très précis dans le sens moi dans ma tête en tout cas, une certaine corporalité qui va aussi être avec des costumes là par exemple, c'est assez j'aime bien par exemple il y a un parcours alors qu'on a les mêmes costumes dans l'usine, mais moi j'aime bien m'inventer tout un parcours de comment les vêtements, comment tout ça vienne raconter autre chose que le simple fait de ce que je joue. Et après, moi, je trouve ça très jouissif au plateau de passer d'une vie à une autre, quoi. Je trouve ça assez incroyable comme, je sais pas, à vivre, quoi, à traverser. Et ça rejoint aussi ce que tu disais, de ne pas être dans un truc linéaire. Généralement, quand on aborde un seul rôle, on travaille sur une ligne comme ça et on va essayer de fabriquer une cohérence et tout ça. Alors que là, en fait, il faut absolument pas faire ça et je trouve ça assez beau et j'aime bien. Il y a quelque chose où moi j'ai la sensation de devoir rendre hommage, le fait d'avoir plusieurs rôles, c'est de devoir rendre hommage à des gens qui ont existé. Il y a un truc, je sais pas, c'est ça. Je dirais ça comme mot.
Alors sans spolier le spectacle, mais je pense qu'on est loin de le spolier parce qu'il est très très riche, hein. Il faudrait le voir plein de fois, c'est un peu comme un film de David Lynch.
Oh, wow.
Non, il faut le voir et le revoir. Ouais, c'était un petit clin d'œil aussi pour lui rendre hommage. Voilà, non, je crois qu'il y a une multiplicité, c'est peut-être ça, Julie, non?
Oui,
c'est
ça.
Affirmer une multiplicité, et c'est grâce au fait qu'on est multiple qu'on peut se transformer ou être autrement. Et ce qui est beau, c'est que les personnages ne sont pas héroïsés parce qu'ils sont plutôt envisagés dans comment ils se rencontrent ou pas, comment ils se passent à côté, ou comment au contraire ils vont se tolérer ou accepter de s'écouter.
Oui, c'est marrant, je me l'étais pas dit aussi, mais du coup, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas cette théorisation, etc., me donne à dire que dans le travail, je m'étais pas rendu compte que j'allais presque dire de raconter pas la banalité, mais le... Je sais pas c'est quoi le mot du coup, si c'est humilité ou mais effectivement de pas se dire, parce que souvent au théâtre on met en avant des vies exceptionnelles, en tout cas des moments exceptionnels de vie, et justement c'est peut-être plus ça, un moment exceptionnel de vie, mais où personne n'est exceptionnel, ça pourrait être n'importe qui, et ça aussi c'est une forme de dommage, quoi, à plein de gens. Parce qu'on est dans une, enfin, je trouve qu'on est dans une époque tellement de starification que moi je déteste, que effectivement on a besoin d'avoir des personnes comme ça, on va personnifier des luttes pas à travers une femme ou un homme, et on va tout à coup tout le monde va décider que cette personne est incroyable, exceptionnelle, formidable. Moi je trouve ça hyper dangereux.
Mais et ça va un peu, enfin, pour moi c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça va quand même un peu. Enfin, je veux dire, tout comme la résistance est de, je crois, hein, de relier sa vie et intime et ses droits et donc sa vie politique. L'extrême droitisation va aussi avec une espèce de starification ou d'individualisme forcené où on t'isole et où on te glorifie, je sais pas où. voilà, il y a aussi ces derniers jours les soulèvements de la terre qui ont mené toute une campagne contre Bolloré, là. Je sais pas, je pense que vous êtes bien au courant. Il y a eu des actes absolument incroyables. Et par exemple, les réponses de Bolloré sur le fait que non, il terrorise personne sont incroyables, en fait. Enfin, le déni et le... Bon, bref. Mais ça, c'est un clin d'œil. Mais après, ce qui est important, peut-être, de dire encore dans le temps qui nous reste avant de rendre l'antenne, et sans spolier le spectacle, c'est qu'on est sur quand même quelque chose qui est en train de brûler et de disparaître, non? Des ruines ou pas? un passage à autre chose.
Et t'as pas parlé, toi, Adil, de comment
travailler. C'est oui, peut-être c'est Adil qui va parler.
Du feu. Alors, du feu ou pas de la manière dont j'ai travaillé?
Des deux.
Comme tu veux. Du feu du travail.
Non, je vous écoute avec beaucoup d'attention et de passion. Mais non, je suis assez d'accord avec ce que dit Julie. Alors, ce qui est drôle avec Julie, c'est qu'on s'est rencontrés, on a parlé un peu de nos manières de travailler. Elle va de, j'ai l'impression que je veux pas écorcher ce que tu dis, mais que tu vas plutôt du corps vers l'intérieur. Mmh. Alors que moi, j'ai plutôt la démarche inverse. C'est-à-dire que j'ai besoin de bien comprendre chacun des personnages. Et je me raconte vraiment, surtout que je joue des personnages qui sont très loin de moi. Je pense que je suis le seul enfant d'immigrés sur la scène. Et je suis le seul à jouer des autorités, des contremaîtres, etc. Et donc, du coup, il m'a fallu faire un gros travail de comprendre, en fait, ces personnages-là, qui sont à l'opposé de moi, pour ensuite leur donner un corps. Moi, j'arrive pas à faire l'opposé. Et je suis assez d'accord avec cette idée du, tu parlais d'extrême droite. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que cette manière de faire des récits, elle est inhérente à toute forme de domination, en fait. Mmh. Qu'elle soit de l'extrême droite. Enfin, le stakhanovisme, c'était de l'extrême gauche et c'était la starification d'un personnage travailleur, etc. C'est une manière de faire des récits. Et moi, il y a un ouvrage d'Alice Zeniter que j'aime beaucoup, mais je me souviens plus exactement du titre, où elle parle justement de cette nouvelle manière de raconter, qu'on peut raconter autrement, avec des personnages qui sont pas forcément héroïques, avec des intrigues qui sont pas forcément directes, etc. Et je crois que c'est une manière aussi de pouvoir renverser la domination, telle qu'elle soit, qu'elle soit masculiniste, raciale, sociale, etc. Pour le feu, oui, l'idée c'était qu'on ravive un feu, en fait, je crois, quelque part. Mais je crois que c'est un peu à toi de parler de ça maintenant.
Bah, oui, il y a eu l'imaginaire un peu des flammes et de la flamboyance et du bras zéro. Voilà, c'est au croisement de plein de choses, évidemment. Mmh. Ça ramène à ce qu'on peut connaître dans la vie, notamment dans des moments de manif, de grève, de mobilisation. Qu'on fasse cramer une poubelle ou des grillades, voilà. Mais évidemment, il y a aussi la métaphore d'un monde en flamme. Il y a une phrase dans le spectacle « Le monde brûle à vos pieds et vous buvez votre... Non, le monde brûle à vos pieds, j'ai horreur des flammes. » C'est un affrontement entre un militant de la CIMAD, Pasteur, qui s'oppose au préfet de Marseille. Et c'est vrai que ça a parcouru un petit peu déjà l'écriture. Au tout début, on voulait que la narratrice principale soit la mémoire en feu d'une 504. C'était un peu une sorte de rêve de départ. On était très attirés aussi par une sorte d'imaginaire de la destruction, parce qu'on est allé dans des casses. On a beaucoup regardé des images aussi de... Alors, pas directement de feu, mais en tout cas de métal comprimé, de tôle cassée, etc. Et en tout cas, ce qui nous a aussi beaucoup animé, et ce qui est dur à résumer avec des mots, mais c'est cette idée qu'il y a une flamme, une petite lueur, ou un foyer, en tout cas, au sens vraiment, voilà, du feu, à l'intérieur de chacun et chacune de ces personnages qui, comme vous venez de le dire, très justement, qu'on regarde et qu'on rencontre à des moments assez intenses de leur vie. Et qu'est-ce qui brûle encore à l'intérieur de nous, même si autour, il y a une sorte de monde en cendres. Et voilà, toutes ces ambivalences entre les braises, les cendres, ce qui est détruit, ce qui est ravagé, puisque le feu, ça ravage et ça détruit complètement. Et en même temps, ce qui aussi résiste en restant actif. C'est plus qu'une métaphore. Je pense que c'est vraiment aussi une façon d'aborder ce qui peut se jouer au plateau avec ce spectacle et ce qu'on peut aussi attiser chez les gens. Enfin, il y a vraiment le texte final de Cathy qui dit ça. Je vois tes yeux aux écrépités dans les braises. Mon histoire est silex, mais le feu est en vous. C'est aussi comment on transmet cette flamme intérieure avec ces personnages et avec les hommages qu'on rend en effet à ces gens qui ont réellement existé, à toutes ces existences qu'on ne peut pas évidemment résumer ou condenser, concentrer dans un seul spectacle, et on pourra jamais le faire, mais comment ce qui se transmet, c'est ça, c'est cette flamme intérieure, c'est ce qu'on veut, et on le fait comme plein d'autres le font et comme plein d'actions dans la vie permettent de le faire, hein, avec ce spectacle. Comment c'est cette flamme-là qui nous fait nous maintenir en vie, en résistance, dans une situation où justement le pouvoir en face chercherait à tout éteindre avec comme si c'était vraiment leur but, quoi, qu'il n'y ait plus rien d'actif. Et donc du coup, aussi bien pour aller commander un verre au bar après la représentation ou faire des choses dans sa vie et continuer à lutter, c'est hyper important pour nous que cette flamme-là soit active tous les soirs. Et ça a été une façon d'aborder le travail.
Ok, merci beaucoup Manon. On n'a pas évoqué ça, mais c'est vrai que le monde de la culture, comme le reste du monde, est en péril, est en feu. Et voilà, je crois que là, on a carrément dépassé.
Une minute,
carrément.
Quand il y a les références qu'on a faites seront indiquées dans la fiche de l'émission, et notamment donc l'adresse de la Cité Internationale pour aller découvrir ce spectacle jusqu'au 8 février.